www.radio-g.fr.
Le pouvoir possède la radio et la télévision.
On ne peut pas savoir où on est ni où on va si on ne sait pas d'où on vient. Pas besoin d'être un grand savant pour s'intéresser à l'histoire, la géopolitique ou l'économie. Surtout quand c'est expliqué par une bande de profs d'histoire géo qui n'ont pas la langue dans leur poche. Des exposés parfois assez différents de ce qu'on nous dit à l'école et dans les médias dominants. L'histoire, la géopolitique et l'économie s'intéressent à vous. Intéressez-vous à elles les samedis à 12h sur Radio G avec Polémix et la voix off.
Le pouvoir possède la radio et la télévision.
Eh bien, c'est maintenant le grand rendez-vous.
Nous comptons sur la bonne volonté et sur la compréhension de tout le monde.
La voix off.
Non, ce n'est pas vrai. Ces lois scélérates ne sont pas des lois destinées à protéger la population. Elles sont des lois destinées à terroriser la population. C'est toujours comme ça que ça se fait. L'objectif, ce sont les mêmes cibles qu'autrefois. Les salaires, les revenus de la masse de la population et les moyens effrayants qu'il faut déployer. Toute loi scélérate est une loi qui conduit à un processus qui, depuis les années 20, s'appelle un processus de fascisation.
Le fascisme, c'est un truc de la bourgeoisie pour faire baisser les salaires. Et une loi scélérate, c'est une loi fascisante. Démonstration aujourd'hui avec l'historienne Annie Lacroix-Risse, professeure émérite à l'Université Paris 7, pour une petite histoire des lois scélérates d'hier. Mais pas d'aujourd'hui, hein. Ne versons surtout pas dans le complotisme puisque nos gouvernants actuels ne veulent que notre bien. Salut, c'est JBD, c'est la voix off. Suite de notre série d'émissions sur les conséquences du congrès de Tours de 1920. Annie Lacroix-Risse, bonjour.
Bonjour.
Alors, ça fait déjà un bon moment que défilent au pouvoir des gouvernements qui nous collent des lois de plus en plus sécuritaires. C'est pour notre bien, hein. Or, de mauvais esprits complotistes évoquent des lois scélérates comme celles prises par la Troisième République en 1893-94 et dont le prétexte était à l'époque un prétendu danger anarchiste qui planait sur la nation. Autre loi scélérate, celle de 14-18 où les gens ont juste le droit de mourir à la guerre ou de se faire esclavagiser dans les usines. Et puis aussi, lois scélérates comme les décrets-lois d'Aladier 1938-39 qui persécutent les vilains étrangers pas de chez nous et les méchants communistes qui avaient des couteaux staliniens plein les dents. Alors ne faisons surtout pas de comparaison avec quelques lois de sécurité globale d'aujourd'hui, hein, uniquement destinées à nous protéger d'affreux terroristes plus ou moins zadistes, black bloc, barbus ou bronzés ou les deux. Comparaison n'est pas raison, hein, surtout pas en histoire, attention. Quoi qu'en disent les impitoyables archives d'Annie Lacroix-Risse qui lui permettent de prouver des choses très désagréables pour nos dirigeants et leurs larbins.
Des historiens comme moi sont des gens très raisonnables qui ont analysé les textes, les pratiques et qui disent, attention, non seulement le fascisme menace, mais la fascisation est en cours. Interdire aux gens de réfléchir sur leur histoire, c'est effectivement leur interdire de comprendre un processus qui est, s'ils ne réagissent pas, un processus au moins momentanément fatal, et dont la France a fait à plusieurs reprises l'expérience. Parce que c'est ça le drame, c'est que ça n'est pas un coup de tonnerre dans un ciel serein ou ça n'est pas un événement inédit. Et il faut réfléchir à ce que porte la transformation d'un discours pertinent en discours criminalisé. Que les Français exigent d'être informés, qu'ils s'informent comme ils peuvent être informés, et ils verront que les lois scélérates mènent à des régimes scélérats et qu'il n'y a pas eu d'exception. Une loi scélérate, c'est une loi qui est prise sur mandat de ceux qui commandent, c'est-à-dire de la grande bourgeoisie, de ce qui est déjà dans les années 1890, le capital financier qu'on verra grossir et se concentrer considérablement jusqu'à notre période comprise, qui est servi par des hommes politiques qui sont au service de ces milieux, qu'on ne m'explique pas que c'est parce que je suis une pétroleuse que je le dis, moi je l'ai démontré par une longue consultation des archives policières. On a un cas de figure que la France a connu dans les années 1930, avec des républicains qui ont prêté la main à la liquidation de la République. La grande bourgeoisie, qui est aux affaires depuis la Révolution française et la période de stabilisation, liquidation napoléonienne, la grande bourgeoisie, elle contrôle tout. Je sais bien que mes collègues n'aiment pas ça, mais les sources l'attestent. Qu'est-ce qui s'est passé ? À chaque période de crise socio-économique terrible, ceux qui veulent prendre des décisions, qui vont toutes dans le même sens, casser les revenus non monopolistes. Question qui se pose depuis les années 1870-1890. C'est la première crise systémique du capitalisme 1873-1914. La Première Guerre mondiale apparaît comme une solution qui ne sera pas définitive à cette crise. Mais c'est cette crise, je m'en tiens à la France, qui génère un ralliement encore plus décisif qu'avant des franges les plus élevées de la grande bourgeoisie à des solutions extrêmement autoritaires. C'est visible dès les années 1890. Ce qu'on appelle les lois scélérates, c'est une donnée qui est née en France en 1893-1894. Sous le ministère de l'Intérieur d'un théorique républicain, Dupuis, qui a utilisé le prétexte terroriste des attentats anarchistes pour s'en prendre à toutes les libertés, qui a en quelque sorte institué le grand ancêtre de nos lois liberticides. Et donc ces lois scélérates, toujours sur fond de crise, sont des lois qui visent à criminaliser toute opposition dans une période où l'opposition n'est pas seulement le fait des oseaux dont une partie est contrôlée par la police, il ne faut pas se faire d'illusions. Hein. Clémenceau, déjà connu quand il devient premier flic de France en 1909, explique comment la police doit infiltrer les groupes les plus extrêmes.
Par contre, n'allons surtout pas imaginer que des black blocs d'aujourd'hui puissent être infiltrés par la police qui est devenue très vertueuse.
Ces groupes minoritaires à la faveur desquels on passe les lois scélérates, ils sont constitués de tas de gens tout à fait de bonne foi, mais évidemment qui sont truffés d'indicateurs, de flics, etc. C'est-à-dire que pour écraser une mouche, parce que c'est affreux les attentats terroristes, mais c'est une mouche par rapport à la tourmente que connaît la France dans les années 1890. On déclenche une série de lois qui reviennent sur toutes les lois républicaines. Ces lois scélérates, c'est une tentative caractéristique de la grande bourgeoisie quand elle veut régler, en attirant l'attention de la population sur les horreurs terroristes qui effraient tout le monde, hein, parce que voilà, se faire trucider dans la rue, c'est très impressionnant pour tout un chacun. Mais en réalité, il y a bien une stratégie qui est une stratégie d'autoritarisme.
Autre batterie de lois scélérates, celle passée pour 14-18 avec la collaboration de socialistes. Loi qui donnait donc aux citoyens le droit de mourir à la guerre et de se faire exploiter dans les usines. En silence, hein.
C'est le propre de toute guerre, évidemment, de renforcer l'autoritarisme politique qui permet, de 1914 à 1918, d'interdire les grèves, de baisser de fait les salaires. Hein. Pendant la Première Guerre mondiale, le Comité des Forges, la Banque de France, le Grand Capital gèrent tout comme ils veulent. On sort de la Première Guerre mondiale, finalement il ne s'est rien passé, en France il n'y a pas eu de révolution. Et qu'est-ce qui se passe dans les années 20, quand se pose la question du règlement économique de la guerre, en particulier de la question de la dette qui s'est accumulée à la faveur de la guerre, parce que je rappelle que la Première Guerre mondiale, ça a coûté cher, très cher.
qui paye les crises? Qui paye les guerres? Qui paye les dettes? Les riches ou les pauvres? Le chanteur mensuel posait la question après la première grande boucherie mondiale.
Dans n'importe quelle circonstance, des choses qui touchent à l'État, comme pour quelqu'un qui finance, le bon peuple est toujours là. Par exemple, nos navires, qui vont si bien dans le fond de l'eau, va falloir les reconstruire, et cela va coûter gros. Et mon bateau, qui ne marche pas, qui ne paiera pas, celui qui travaille, qui se crève la peau, qui est chargé de marmaille et criblé d'impôts, et vaille que vaille, s'il ne marche pas, celui qui travaille, on le saisira, et même sur la paille, on le mettra. Celui qui travaille.
Les milieux financiers trouvent que il faut faire payer les paysans, il faut faire payer les ouvriers, il faut faire payer les fonctionnaires, tout ça. Le capital financier s'organise pour y parvenir. C'est en 1922 un projet fasciste adopté par la Synarchie, qui paraît-il n'existe pas, mais enfin qui est quand même identifié à 12 fondateurs. Moi j'en connais 11. Les renseignements généraux n'ont pas livré le 12e.
La Synarchie qui n'existe pas, c'est ce noyau dur du capitalisme français créé en 1922 et qui vise à l'instauration de régimes fascistes. C'est bien entendu une fable inventée par Annie Lacroix-Riss pour se rendre intéressante, bien qu'elle démontre l'existence de la Synarchie à l'aide d'archives incontestables.
On a des gens dans la perspective de faire triompher en France ce qu'ils font triompher chez tous les grands débiteurs. Et ça commence dans les grandes largeurs par l'Italie, qui est un énorme débiteur, dont les créanciers, les banquiers internationaux, exigent le paiement de la dette. Et vous croyez qu'une dette, ça se paye comment? Ben, ça se paye en ne touchant pas les très grands profits, mais en touchant tout le reste. C'est exactement d'ailleurs la question qui est posée aujourd'hui. C'est exactement la question qui est posée dans les années 1930. Les mêmes milieux financiers, parce qu'ils sont en charge comme créanciers, ils aident à la réalisation de la solution italienne, 1922, avec encore plus d'acuité à partir de 1924, parce que la victoire électorale de ce qu'on appelle le cartel des gauches, centré autour des radicaux, lesquels radicaux ont promis un programme sur l'impôt sur le capital et tout un programme revenant d'ailleurs sur la répression anti-ouvrière qui a suivi la Première Guerre mondiale. Là, cette fameuse Synarchie, ce groupe financier, il décide de pousser les feux. Il pousse les feux des lois scélérates et de la préparation du fascisme depuis cette date-là. On est très loin de l'agitation ouvrière de mai-juin 1936, c'est-à-dire qu'avant que la classe ouvrière n'eût bougé en France une oreille dans les années 30, je rappelle qu'elle ne bougeait plus beaucoup d'oreilles depuis l'échec des grèves de 1920. De 1920 à 1936, dans la classe ouvrière, il ne se passe pas grand-chose. Mais arrive la crise, et c'est alors que se mettent en place les lois scélérates, parce que fin des années 20, dans les premières expériences de décret-loi avec Poincaré, l'homme dans la sidérurgie, dans le comité des forges, a fait toute la carrière qui vient écrabouiller le cartel des gauches qui, il est vrai, n'était pas très vaillant. Il y a les premiers décrets-loi et les décrets-loi, ils n'arrêtent pas. Il faut bien comprendre ce que c'est qu'une loi scélérate. C'est l'accélération vers un processus de confiscation totale du pouvoir par les privilégiés dont nous connaissons de très nombreux exemples en France. Le projet fasciste est devenu un projet phare des milieux financiers à partir de 1922, quand se fonde la fameuse Synarchie qui paraît-il n'existe pas. Pourquoi elle se fonde ? Parce qu'à la faveur de la crise terrible de reconversion d'économie de guerre en économie de paix de 1920 à 1922, la fine fleur de notre capital financier décide qu'elle va tordre le cou à la République, pas parce que la République est méchante avec elle, parce que sous la République, les décisions dramatiques pour la population sont des décisions qui ne se prennent que lentement ou qui ne se prennent pas. Il y a quand même des gens qu'on est obligé d'élire tous les 4 ans. La quasi-totalité d'entre eux dépend du patronat. Les gens dont on organise l'ignorance, qui n'y comprennent plus rien, c'est-à-dire qu'on vous dit, y a des républicains, mais les républicains, ils se battent pour la République, tout ça. Mais non, ils ne se sont pas battus pour la République. Daladier était présenté par l'homme du comité des forges et ambassadeur à Berlin, André-François Poncet, en 1933, quand il était ambassadeur auprès du Reich hitlérien, qui racontait en 1933 à Hitler, à son ministre des Affaires étrangères, von Neurath, que bientôt la France aurait un gouvernement très autoritaire. Ce gouvernement très autoritaire pourrait par exemple être dirigé par Daladier, ministre de la guerre depuis 1933, pratiquement sans interruption, jusqu'en 1940. Une espèce d'admirateur éperdu des ganaches qui ne rêvaient que d'étrangler la gueuse, des bonnes gens comme Pétain, mais Pétain c'était pas officiel, et des bonnes gens comme Végan, mais Végan c'était officiel qui détestait la gueuse. Et donc, en 1933, notre ambassadeur à Berlin annonçait que Daladier était pressenti pour diriger un gouvernement imminent qui ressemblerait au gouvernement d'Hitler. C'est pas Annie Lacroix-Riz qui l'a inventé, c'est noir sur blanc dans les archives allemandes publiées. Notre bon André-François Poncet, quand il a achevé la mission qui a consisté à laisser le Reich se servir au détriment d'une série de pays d'Europe, en 1938 avec l'Anschluss, l'annexion de l'Autriche, puis la liquidation de la Tchécoslovaquie, dont la France et l'Angleterre sont les principaux responsables. Donc, ce n'est pas une invention que d'entendre François Poncet dire au diplomate qu'il va voir en novembre 1938, puisqu'il va s'installer en Italie, après avoir aidé l'Allemagne, on va aider l'Italie fasciste, et il dit à ce diplomate, pris dans les archives italiennes, il lui dit, en somme, nous assistons en France au processus de la fascisation de la République. C'est pas Annie Lacroix-Riz qu'il dit, c'est André-François Poncet.
De 1938 à 1940, le radical Daladier, président du Conseil, gouverne à coups de loi scélérate validée par une chambre de députés godillots, dont nombre de socialistes de la SFIO.
Et ces lois scélérates, elles ont été prises par-ci, par-là, et de 38 à 40, elles ont été prises systématiquement. Loi contre les immigrés. Mais on ne peut même pas imaginer la violence de ce que sont les décrets-lois Daladier contre les immigrés. Privé de tout droit, qui faisait la queue devant les préfectures, comme aujourd'hui. Donc, loi scélérate, persécution des étrangers, persécution des ouvriers, avec la défaite ouvrière de novembre 1938. Alors, on entre dans une situation de défaite ouvrière qui accélère toutes les possibilités. Tous les salariés sont frappés par ces lois scélérates. Or, les salariés, c'est en énorme partie les ouvriers. Or, les ouvriers, ils sont frappés, par exemple, sur la répression des grèves. À partir de mai, sont donc décidés tous les décrets-lois qui prévoient des mesures de contrôle contre les immigrés. Et puis, il y a toutes les mesures prises à la faveur des grèves au printemps et à l'été 1938. Il y a une grève très importante empêchée par une conjonction entre un certain nombre de ministres avec l'intervention de Jouot et de Belin. Et comment les mesures prises contre les cheminots, par exemple, à l'été 1938, anticipent sur toutes les mesures liberticides qui sont prises après la grève de novembre 1938. En frappant d'abord les étrangers. Les décrets de mai 1938 occupent une fonction centrale parce qu'il faut se rappeler en plus que la France est quand même un pays dépendant depuis les années 1880 énormément de l'immigration étrangère. Frapper ces ouvriers étrangers, c'est à la fois frapper les salaires et frapper toutes les libertés, puisque de fait, les étrangers sont privés d'à peu près tous les droits. Ils n'ont plus le droit d'adhérer à des organisations françaises, ils ne sont plus considérés comme des citoyens ou des syndicalistes normaux, c'est-à-dire une pluie de mesures qui, dans le contexte de très vif mécontentement, aboutit à toutes les mesures contre les grèves. Là, on est en juillet 1938. L'objectif, c'est bien entendu de casser la CGT. Et c'est l'objectif central de la synarchie, et c'est pour ça d'ailleurs que la synarchie a été obligée de recruter les syndicalistes compréhensifs. Un syndicaliste compréhensif, c'est quelqu'un qui est en mesure de liquider le syndicat quand c'est nécessaire. Le second de jour, René Belin, qui devait prendre à sa retraite sa place, et qui joue toute l'année 1938 un rôle majeur dans les discussions avec de Monzy, avec le ministre des Travaux Publics, avec Daladier, etc., et d'ailleurs dans les préparatifs de Munich aussi. C'est aussi celui auquel on va mettre un chapeau de ministre du Travail et de la Production Industrielle. Ce type qui a cassé son syndicat, que Jouhaud a laissé faire, parce que Jouhaud, comme le disent très bien les rapports policiers, il n'avait qu'une obsession. Empêcher les rouges, empêcher les plus combatifs d'avoir la direction du syndicat. Donc il a fait la première scission de 1921, qui n'est pas une scission, qui est une éviction des minoritaires qui étaient en train de devenir majoritaires. Et il a fait la même chose avec Belin, sous l'égide d'un financement patronal, et c'est ce même Belin, le domestique des synarques. Il avait pour officier traitant le directeur général de la Banque Vente, Barnaud, qui va devenir une des personnalités de Vichy les plus importantes, plus puissant qu'un ministre. Belin, en juillet 1940, pour donner l'impression que le gouvernement de Pétain est un gouvernement ouvrier, est nommé ministre de la production industrielle et ministre de Vichy. Il n'a jamais rien fait tout seul, il a toujours eu pour tuteur et pour guide Barnaud. En février 1941, on lui a retiré le poste de la production industrielle qu'on a aimablement donné à Pucheux, ancien dirigeant d'une structure centrale du comité des forges, et que c'est lui qui a pris la production industrielle avant de prendre le ministère de l'Intérieur en juillet 1941. Et donc, pendant tout l'été, sur fond d'interdiction de ceci, d'interdiction de cela, sur fond de promesses de Georges Bonnet, ministre des Affaires étrangères, à l'ambassadeur allemand von Weltseck, promesse faite le 1er juillet 1939, que on allait interdire les réunions politiques, naturellement n'étaient visées en l'occurrence que les réunions communistes, qu'on allait mettre les communistes à la raison, je cite, c'est-à-dire supprimer le Parti communiste, et qu'on allait supprimer les élections. C'est-à-dire que la République sous Daladier, après avoir multiplié les câlins dans la période antérieure, promet aux représentants de l'Allemagne hitlérienne de neutraliser ce qui est en France, comme ailleurs, le principal ennemi du nazisme, c'est-à-dire le Parti communiste. Tandis que le bon Belin, avec la protection de Jouhaud, secrétaire général de la CGT, prépare avec nos ministres l'abolition de la semaine de 40 heures, parce que c'est ça l'essentiel. C'est le décret des décrets, le roi des décrets. La liquidation de tout l'acquis de 1936, qui nous vaut des émissions ravageuses à la télévision expliquant que c'est grâce à Blum que les ouvriers ont eu des vacances. Regardez sur mon site les références électroniques d'un gros article qui s'appelle « Léon Blum détestait-il la finance ?» Il la détestait comme Hollande, c'est-à-dire qu'en fait il la servait.
Cet adversaire, c'est le monde de la finance.
Et donc, l'équipe syndicale prépare avec le pouvoir et les patrons l'échec des grèves de 1938, déclenché à dessein par des mesures provocatrices, dont la première est évidemment l'abolition de la semaine de 40 heures. plus de semaine de 40 heures. La semaine pourra aller jusqu'à 48 heures. Pure provocation, je le rappelle, parce qu'à l'époque, la durée moyenne du travail, pour ceux qui ne sont pas chômeurs, c'est 36 heures. Non seulement ça va être 48 heures, avec éventuellement les heures supplémentaires, non majorées, dans un contexte où il n'y a pas de travail. Il y a d'autant moins de travail, je dirais, que la grande bourgeoisie a décidé de saboter le réarmement dans les conditions que j'ai exposées dans mes livres. Donc, les ouvriers devant qui on colle les mesures provocatrices d'augmentation de la durée du travail et, comme disait le brave Reynaud dans un discours célèbre du 14 novembre 1938 à la radio, « Demain, je le dis non seulement pour la France, mais pour l'étranger. » La semaine des deux dimanches est terminée. Vous augmentez la durée du travail, il n'y a pas de travail, et la semaine des deux dimanches est terminée parce que les décrets de la mi-novembre sont des décrets qui organisent la journée sur 6 jours. Il est rare que des grèves ne soient pas déclenchées par des provocations patronales et étatiques. Eh bien, il y a de premières grèves, et puis il y a la grève générale, que Belin et Jouot et leurs petits camarades ont saboté depuis le printemps 1938. Et ça nous fait les décrets-lois de novembre 1938. Et bien, entre mai et novembre 1938, l'essentiel du dispositif du Front populaire est déjà mort. Et à partir de novembre 1938, ces bonnes gens font ce qu'ils veulent. Les communistes ont été marginalisés définitivement, d'ailleurs avec le prétexte du pacte germano-soviétique du 23 août 1939, ce qui a valu d'ailleurs dans tous les pays qui étaient menacés par l'invasion allemande. Vous avez des pays qui ont été littéralement vidés de leur énergie et de leur force vive, de celles qui étaient les plus susceptibles de s'opposer à l'occupant, c'est-à-dire évidemment des rouges. Il faut y ajouter, parce que nous avions des étrangers nouveaux depuis le début de l'après-guerre. Nous avons beaucoup d'immigrés, les Italiens, les émigrants juifs et antifascistes allemands, objets de persécution, et nous avons ces malheureux Espagnols. En 1939, après la chute de Barcelone et la prise de Madrid, on a 750 000 émigrés qu'on accueille comme des brigands. C'est horrible, les camps du Sud-Ouest. Bien sûr que ce sont des camps de concentration. Et ce sont des camps où la mortalité est effrayante. Ne pas raconter ça à la population française, c'est évidemment entretenir les illusions si utiles que toute la gauche est à gauche et que la droite est somme toute bienveillante. Le 1er juillet 1939, en accord avec le radical Daladier, le radical Georges Bonnet, l'homme des grandes banques françaises et ministre des Affaires étrangères, que des mauvais esprits appelaient le ministre étranger aux Affaires françaises, s'en va discuter avec von Welsegg et lui annonce que les communistes seraient mis à la raison dans les meilleurs délais. L'histoire du pacte germano-soviétique, 23 août 1939. Mais c'est à partir de 1932 que l'Union soviétique fait comprendre qu'elle veut absolument ressusciter l'alliance tripartite qui, en 1914, a permis à la France de n'être pas un pays totalement envahi.
Pendant les années 30, les milieux dirigeants anglais et français ne font rien contre les dictatures fascistes qui fleurissent un peu partout en Europe, et voire même les encouragent. Hitler ne sera par exemple aucunement gêné par la France et l'Angleterre, qui ignorent les appels du pied de l'URSS qui souhaiterait établir une alliance tripartite contre l'Allemagne nazie. Hitler a clairement annoncé la couleur dans son Mein Kampf, il fera la guerre contre la France et la Russie. Et cette guerre que l'Allemagne prépare, les dirigeants français ne la préparent surtout pas. Dans le patronat français, on est très admiratif de ce régime nazi où les ouvriers marchent au pas sans broncher. plutôt Hitler que le Front Populaire, est une formule à la mode dans l'oligarchie française de l'époque. En 1938, Chamberlain pour l'Angleterre et Daladier pour la France signent les accords de Munich, un pacte de non-agression avec Hitler, un an avant le pacte que les nazis proposent aux soviétiques le 23 août 1939, et que Staline accepte, car il sait qu'il ne peut pas compter sur la France et le Royaume-Uni. Le pacte germano-soviétique sera le prétexte invoqué par Daladier pour faire interdire le Parti communiste français et tout ce qui gravite autour du PC.
Lorsque, renversant brusquement sa politique et sa doctrine,
Édouard Daladier,
la Russie a signé avec l'Allemagne un pacte,
25 août 1939,
qui lui permet de se dérober aux obligations que lui imposait la politique qu'elle a cependant toujours publiquement affirmées.
25 août, interdiction de toutes les publications communistes, de toutes les associations communistes, et le décret-loi définitif, c'est 26 septembre 1939, avec l'interdiction officielle du Parti communiste. Moi, j'ai fait l'histoire du procès des députés communistes déchus de leur mandat à partir de janvier 40. Non seulement une série de militants communistes sont au trou, arrêtés systématiquement. Il y a des milliers de communistes en prison. La répression est générale, en fait, à partir d'août 39. Officielle, à partir du 26 septembre 1939. La France et l'Angleterre ont quand même déclaré la guerre à l'Allemagne. Le 3 septembre 1939, j'ai montré, avec d'autres d'ailleurs, comment il avait fallu obtenir ça au forceps, hein. Début septembre 1939, c'est Léon Blum qui va voir Daladier, tout de même, ne vous engagez pas trop sur la Pologne. Il faut voir ce que c'est qu'une guerre non préparée, parce que c'est un aspect tabou, hein, depuis le temps qu'on nous chérine qu'on a perdu la guerre parce qu'on avait des vieux schnocks à la tête de l'armée qui n'y comprenaient rien, qui ne savaient pas lire une carte. Pour le seul livre, le choix de la défaite, j'ai passé 5 ans d'archives. Tous les types d'archives, français, étrangers, sans compter ce que j'avais vu avant, pour montrer et démontrer que les classes dirigeantes avaient bousillé la guerre. Donc à partir du 3 septembre 1939, théoriquement, je le rappelle, nous sommes en guerre. C'est même le prétexte du décret du 26 septembre, puisque en quelque sorte, n'acceptant pas de désapprouver le pacte de non-agression germano-soviétique, les communistes se mettraient en dehors de la légalité et tourneraient leur foudre contre leur pays, seraient des antinationaux. C'est ça le prétexte officiel.
Il y a quelques semaines, les chefs communistes se présentaient à vous comme de farouches patriotes.
Édouard Daladier.
C'était à les entendre de nouveaux jacobins.
10 octobre 1939.
Ils annonçaient qu'ils seraient à la pointe du combat contre Hitler et contre ses armées. Et il a suffi que les bolcheviks trouvent leur intérêt à s'entendre avec les nazis et à partager avec eux la Pologne pour que ces prétendus nouveaux jacobins fassent l'apologie d'une paix de trahison.
Quand les députés communistes sont traduits devant la justice à partir de 1940 dans des conditions mais effroyables, sans bénéficier du statut de prisonniers politiques, car ils ont été réduits au droit commun. Des anciens combattants, parfois amputés, se sont retrouvés dans des cachots glacés, sans droit politique. Je fais remarquer aux auditeurs que les cagoulards, à la suite notamment de la tentative de putsch du 15 septembre 1937, soit avaient pu échapper totalement aux poursuites, soit avaient fini par être munis du statut de prisonniers politiques. Ça n'a pas été le cas des députés communistes, des élus communistes, puisqu'on avait un sénateur, il y avait Cachin, déchus de leurs droits, emprisonnés, sans la possibilité de disposer de leur dossier et dans des conditions de censure totale. Plus d'organes de presse communistes licites à partir du 25 août 1939 et déchu avec non seulement la totalité de la droite et de l'extrême droite, mais avec la quasi-totalité de la gauche, y compris Blum, hein, au motif que ce sont des traîtres à la patrie. Pendant que les députés socialistes discutent pour savoir comment on peut s'arranger avec les Allemands en 39-40. C'est le même Daladier, avec le même Georges Bonnet, qui, en mars 1939, alors même qu'il a déjà fait négocier, en février 1939, un accord avec Franco, dont le premier article stipule que Franco recevra tout l'or de la Banque d'Espagne qui avait été livré à la Banque de France depuis avril 1931, c'est-à-dire depuis la naissance de la République. C'est donc ce même Daladier qui a organisé l'alliance de fait avec Franco, qui n'empêchait pas évidemment qu'à l'époque, Franco fricotait avec les Allemands. C'est donc ce même Daladier qui livre aux futurs bourreaux les députés communistes et qui les prive de leur mandat sous prétexte qu'ils n'ont pas condamné le pacte germano-soviétique et que ce sont des traîtres à la patrie. Ce sont tous les mêmes qui ont voté, moins 80. Il y a des socialistes, y compris Blum, bien sûr, qui voteront contre les pleins pouvoirs à Pétain. Ce sont les mêmes qui ne se sont pas du tout opposés en fait à l'Allemagne, qui ont mené la guerre exclusivement contre les communistes, qui l'ont menée avant et qui l'ont menée après. La dépendance de la quasi-totalité des hommes politiques par rapport aux hommes du grand capital, c'est quelque chose qui ne fait pas ressembler la République à ce qu'on dit qu'elle est. C'est quelque chose qu'il faut connaître pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Et la responsabilité des chefs républicains est une responsabilité écrasante. Pourquoi on ne la connaît pas? À partir du moment où on n'épurait pas, il fallait cacher que Daladier avait brûlé le dossier de cagoule de Pétain dans son bureau en 1937. Il fallait cacher que le même Daladier, en mars 1939, avait envoyé Pétain comme ambassadeur chez Franco. Et pourquoi donc? Tout le monde le savait. On sait que tout le monde le savait, puisque moi j'ai trouvé les sources pour l'établir. Pour permettre à Pétain et toute sa clique, laisser à Pétain plus d'un an pour s'organiser contre la République française. Juillet 1939, toutes les lois sont déjà là. Ils ont eu plus d'un an pour tout mettre au point. Regardez les archives policières. Voilà ce qui est la réalité. Évidemment, on n'a pas les mêmes sources aujourd'hui, hein. Moi, je ne sais pas ce que dans le secret des cabinets, un certain nombre de censeurs officiels des lois liberticides négocient avec les puissants. Je n'en sais rien. Mais ce que je peux dire, si les populations ne se rendent pas compte de ce que c'est qu'un processus de fascisation, d'autant plus grave aujourd'hui qu'il est partagé par la fameuse Union européenne. La résolution du 19 septembre 2019, assimilation du nazisme et du communisme. Mais qu'est-ce qui se passe en Europe de l'Est? C'est une glorification des alliés d'Hitler dans chacun des pays de l'Europe orientale qui va de pair avec la suppression des partis communistes, des organisations tenues pour communistes. Réveillons-nous. Oui, la fascisation menace parce que tout l'enseignement historique permet de l'établir. Non, ce n'est pas vrai. Ces lois scélérates ne sont pas des lois qui sont destinées à protéger la population. Elles sont des lois destinées à terroriser la population. Terroriser la population, c'est toujours comme ça que ça se fait. De telle sorte que soit isolé non seulement des dingos, ceux qui zigouillaient le brave bourgeois ou le pas bourgeois à la fin du 19e siècle anticipent sur le terrorisme d'aujourd'hui qui a forcément une autre portée. Parce que nous conduisons des guerres impérialistes depuis un bon moment et que nous avons aujourd'hui des retombées de ces guerres impérialistes qui ont fait des millions de morts depuis l'Afghanistan. Donc un certain nombre de conséquences pèsent sur la tête, le cerveau d'un certain nombre de dingos, mais l'objectif, ce n'est pas les dingos. L'objectif, ce sont les mêmes cibles qu'autrefois. Les salaires de la masse de la population, les revenus de la masse de la population et les moyens effrayants qu'il faut déployer. L'extension de la mondialisation du capitalisme fait que il nous arrive à tous les mêmes aventures. Hein. Les lois scélérates chez nous, c'est aussi des lois scélérates dans l'ensemble de l'Europe, qui paraît-il est démocratique maintenant. Et donc, l'ampleur de la crise qui provoque des guerres de tous les côtés et des guerres dont chacun redoute légitimement aujourd'hui l'extension, parce que même quand on n'a pas de très grande connaissance historique aujourd'hui, hein, on se dit « oulala, oulala, comment on va arrêter cette crise ?» Ce qu'on nous explique aujourd'hui, on va nous soigner et que ça va rapporter beaucoup d'argent à un certain nombre de groupes. Mais comment on va faire? Parce que notre situation ressemble beaucoup à 14. Beaucoup. Et surtout avec les années 30. La différence, c'est qu'il y a encore, dans les années 1930, en tout cas en France, un mouvement ouvrier qui se tient droit, qui est indépendant du patronat. Il est affaibli, très affaibli, dans la période de ce que j'ai appelé les lois scélérates, et notamment en 38-40, mais on n'est pas dans l'état de déliquescence du mouvement ouvrier, cet état actuel, qui nous rappelle l'état qui a précédé 1914. On est dans une situation à la 1914. Et il faut bien comprendre que les projets assassins qui ont précédé 1914 sont des projets qui ont été réglés sur le plan politique par la guerre et par conséquent par la suppression de pratiquement toutes les libertés démocratiques qui ont présidé aux quatre années 1914-1918. Quand on empêche les gens de faire de l'histoire, on aboutit à cette situation terrible d'aujourd'hui où ceux qui, pour des raisons scientifiques ou pour des raisons civiques et politiques, ont continué à s'intéresser à la réaction politique aux crises, on explique que ces gens-là sont des conspirationnistes, des complotistes, etc., qui n'arrêtent pas de crier au loup alors que le danger est minime. Non, le danger n'est pas minime. Pas du tout. Et la différence avec les années 1930, c'est que en France, et dans la quasi-totalité des pays, pas dans tous, mais en France, on a un mouvement ouvrier qui, sur le plan syndical et sur le plan politique, est à peu près dans la situation de 1914. Et qui ne fait même plus semblant, comme avant 1914, de mettre le haut là. Hein, parce qu'officiellement, l'internationale syndicale, elle couinait beaucoup, sans arrêt, et surtout 1905 à 1914, en disant que tout se passerait bien parce que les ouvriers retourneraient leurs armes contre leurs exploiteurs, voilà. Les partis socialistes faisaient la même chose. Et dans le secret des cabinets, dans le secret des réunions internes, les choses ne ressemblaient pas du tout à ce qui se disait. Et ça s'est vu quand, en juillet 1914, on en est arrivé à ce qui était escompté, je dirais, depuis la phase de la crise atteinte dans les années 1890. Voilà où on en est. On commence à le voir, le niveau de brutalité de la police actuelle, qui tabasse des gamins de 15 ans, qui tue un pauvre livreur. On est dans une situation qui nous fait renouer avec les pires époques de la police. D'une police, je le rappelle, qui n'a jamais été épurée. Je me suis fait insulter par des collègues parce que j'avais expliqué que la France n'était pas épurée depuis la libération du territoire métropolitain. Eh bien, c'est vrai. On le sait par Papon.
Maurice Papon, secrétaire général de la préfecture de Gironde entre 42 et 44. condamné en 1998 à 10 ans de réclusion criminelle pour complicité de crimes contre l'humanité concernant des actes d'arrestation et d'organisation de la déportation des Juifs de la région bordelaise. Il sera partiellement acquitté, hein, parce que, paraît-il, il savait pas que les Juifs allaient être assassinés par les nazis. Papon fait carrière dans la France d'après-guerre. Il est notamment le préfet de police de Paris lors des massacres du 17 octobre 61 et de Charonne en 62. Et Papon sera aussi ministre du budget de Giscard de 78 à 81.
Le vilain méchant, mais Papon, il a été comme tout le monde. Papon, de Gaulle connaît parfaitement son cursus. Et Papon, il continue, il organise la répression coloniale, où il sera très efficace. Il organise la répression contre les communistes. Et ben voilà, il n'y a eu que des Papons. Moi, j'ai montré quel avait été le sort de nos chers préfets. J'ai montré ce qu'avait été la police. Et donc, on a une police, d'ailleurs, comme on a une magistrature, qui ressemble à ce qu'elles ont été depuis ce 19e siècle. Le juge qui était féroce avec l'assassin, c'est aussi le juge qui était féroce avec les anarchistes présumés ou pas présumés, qui était féroce avec les pauvres, qui était féroce dans l'entre-deux-guerres avec tout protestataire. Les générations se succèdent, mais ce sont les mêmes magistrats dont le comportement pendant la Deuxième Guerre mondiale est aussi effroyable que le comportement de la police, qui ont livré, comme la police, qui ont livré les résistants aux Allemands, et particulièrement les résistants rouges. Ils sont devenus plus raisonnables avec les autres, surtout à partir de 1942. Et c'est cette police, il faut le dire, qui a été maintenue, malgré quelques cas qu'il était impossible, évidemment, de soustraire à l'action de la justice. Mais rappelons que Bousquet, dont le palmarès est absolument effroyable, effroyable au point qu'il en est inimaginable.
René Bousquet est un homme d'affaires de l'après-guerre et un copain de François Mitterrand. Mais entre 1942 et 1943, Bousquet est secrétaire général de la police du régime de Vichy. Il est notamment l'organisateur de la fameuse rafle du Veldiv de 1942 et aussi de rafles en zone sud. Alors que Bousquet est dans ses fonctions, près de 60 000 juifs sont arrêtés en France, souvent par la police française, et livrés aux nazis pour extermination. Mais Bousquet n'a pas persécuté que des juifs.
Contre les juifs, contre les rouges, contre tout opposant. Eh bien, ce Bousquet, on me dira, il n'est pas redevenu policier. Ah ben non, celui-là non. Il est devenu financier. Il a été promu à la Banque d'Indochine. Et je ne vais pas faire preuve de mauvais esprit, mais montrer ce qu'est la force considérable des relations, de ce que Marx appelait les rapports sociaux. Est-ce que c'est faire preuve de mauvais esprit que d'observer que Bousquet a été le compagnon de conseil d'administration de Veil, le mari de Simone Veil, pendant des années, c'est-à-dire du mari d'une femme dont une partie de la famille était passée par les camps d'extermination, qui elle-même est passée par Auschwitz et est revenue. Comment on peut comprendre ça si on ne fait pas d'économie et de société, hein? Dans ma famille, la question, je veux dire, ne se serait jamais posée de siéger en même temps que quelqu'un qui avait participé directement au malheur, à un certain nombre de morts dans la famille. Est-ce qu'on mesure dans quel système nous sommes pour que le mari d'une ancienne déportée qui a couvert l'intégration de pays européens dont les dirigeants étaient des héritiers directs, des collaborateurs même de l'ennemi, est-ce qu'on mesure ce que veut dire une république qui met au panthéon, qui associe son mari sous le prétexte qu'il est son mari, alors même que il n'y a, par exemple, au Panthéon, aucun, pas un, des intellectuels, des ouvriers, des paysans qui, sous la bannière du Front National organisé par le Parti communiste à partir du printemps 1941, de ceux qui ont joué un rôle, les sources sont catégoriques, dans la lutte contre l'envahisseur. Mais est-ce qu'on se rend compte que sur les lois scélérates, c'est comme sur le reste? On nous fait prendre des vessies pour des lanternes, à un tel point d'ailleurs, c'est dramatique, que finalement, un discours censé, appuyé sur des sources, éprouvé par les sources, finalement aujourd'hui, est considéré comme ayant le même poids ou le même ridicule que des discours complètement lunaires de ceux qui voient le complot partout. Donc, la situation actuelle, c'est faire semblant de voir le complot partout pour ne plus voir le complot nulle part. C'est-à-dire la part que prennent les classes dirigeantes à la réalisation d'une situation politique qui exige les lois scélérates. Voilà où nous en sommes. Pourquoi il faut lutter contre les lois scélérates ? Exactement pour les mêmes raisons qui rendaient indispensable de lutter contre les lois scélérates de 1893, contre les lois scélérates des années 1930 et en particulier les décrets-lois de Daladier. Tout de même, je rappelle pour mémoire, et encore n'a-t-on pas parlé clairement des préparatifs de Vichy et de la complicité des chefs républicains à l'égard des préparatifs de Vichy, on est quand même dans une situation avec les décrets-lois d'Aladier. Il y a plein de décrets nouveaux, hein, sur les juifs, sur les francs-maçons, sur ceci, sur cela. Il n'y a pratiquement pas un décret nouveau anticommuniste spécifique avant l'été 1941, c'est-à-dire l'arrivée de Pucheux, l'ancien dirigeant du comptoir sidérurgique, l'homme du comité des forges et l'homme de la banque Worms et de l'ensemble de la synarchie, qui paraît-il n'existe pas. Il a fallu attendre les décrets de Pucheux pour que de nouvelles mesures fussent prises. Moi, j'ai par exemple décortiqué la manière dont, encore en avril 41, Darlan dit à Pétain « mais non, c'est pas la peine de refaire ce texte-là sur la mise au trou des communistes, il suffit d'établir des peines planchées au moins 10 ans, et puis voilà ». Hein, les communistes bouclés depuis le décret-loi du 26 septembre 1939 interdisant le Parti communiste et toutes ses organisations, y compris les organisations syndicales considérées comme communistes, c'est-à-dire en fait les anciens militants de la Confédération générale du travail, de la Confédération générale du travail unitaire, eh bien voilà, c'est en vigueur sous Vichy jusqu'à l'été 1944. On arrête des communistes terroristes, puisqu'ils sont qualifiés tels, il y a des décrets aussi contre les terroristes, on coffre et on livre aux Allemands des communistes passibles du décret-loi du 26 juin 1939.
On approche de la fin de cette conférence d'Annie Lacroix-Riss avec une idée forte. Quelle que soit l'époque, quel que soit le prétexte de danger invoqué, que ce soit l'anarchiste, le communiste, l'étranger, le terroriste, plus ou moins barbu, plus ou moins bronzé, une loi scélérate, ça sert à plumer les gens sans qu'ils ne bronchent. Et un ensemble de lois scélérates, c'est la colonne vertébrale d'un régime fasciste. Et le fascisme, ça sert à faire baisser les salaires et autres charges, comme on dit aujourd'hui au MEDEF.
Pour mener une guerre contre les revenus de la population, il faut se donner beaucoup de mal. Parce qu'on le voit bien avant 14, on le voit bien avant 40, et on le voit bien aujourd'hui. Une chose est d'avoir des syndicats complaisants. C'est le cas avant 14. Hein. C'est la réalité qui s'établit entre les années 80 du 19e siècle et 1914. C'est la réalité qui a été avérée dans la crise des années 20 ou des années 30. Et encore, je ne reviens pas sur la Première Guerre mondiale. Pas de grève, baisse des salaires réels, etc.
Et ces mesures scélérates sont d'autant plus faciles à imposer avec la collaboration de leaders syndicalistes achetés par le patronat.
Des syndicats qui ne font rien pour défendre leurs mandants, ce sont les syndicats social-démocrates. Ils n'ont rien fait. Ils se sont pliés à tout. Je viens de faire un ouvrage qui s'appelle « Scission syndicale, réformisme et impérialisme dominant », 1939-1949, et le passage, une phase où nos syndicats ont été sous influence allemande, à une phase où, et c'est la phase qui prévaut toujours, c'est l'impérialisme dominant qui a pris la tête des choses, de telle sorte que les bourgeoisies nationales ont été secondées partout depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale par les États-Unis. Or, qu'est-ce qui se passe quand des salariés ne sont plus défendus? En période de crise, ces dirigeants syndicaux, ils sont bien utiles parce qu'ils servent pendant un bout de temps. Quand on vient raconter aujourd'hui que le fascisme, c'est encore parce que les rouges se sont mal conduits, c'est faux. C'est parce que la grande bourgeoisie a eu des projets liberticides qu'elle a pu mener tranquillement avec ses partis propres et avec la complicité de ce qui n'était pas ses partis, mais dont elle rémunérait les éléments les plus compréhensifs. Il faut arrêter de nous dire qu'il y a un barrage des gens qui communient dans la même conviction qu'il faut écraser le populaire, parce que ça se sent bien ces choses. Pourquoi est-ce que dans cette droite dite classique, présentée comme républicaine, hein, c'est la terminologie de Sciences Po, ça. C'est l'héritage d'Orémon, hein, les trois droites. Il y a trois droites, il paraît. Hein. Il y a une droite légitimiste, il y a une droite orléaniste, une droite bonapartiste, et puis dans tout ça, ça nous fait une bonne droite républicaine qui s'excite un peu de temps en temps. En juillet 1940, on n'a pas vu trois droites, on en a vu une. Le discours aujourd'hui de gens considérés comme des représentants de la droite républicaine ont le même discours que le discours du Front National rebaptisé en Rassemblement National. Ben parce que dans les périodes de crise, suce à l'ennemi et l'ennemi, c'est le salaire. Voilà. En apparence, c'est le rouge, c'est le terroriste, etc. C'est pas vrai. C'est le salaire. La répression, comme la répression en Indochine, dénoncée dans les années 30 par la très compétente journaliste André Violis, qui avait décrit la répression atroce du colonialiste français en Indochine. Je dis bien atroce. Ça consiste à faire de la répression pour épouvanter les autres. Et qu'est-ce que les Français, qui avaient toujours beaucoup d'idées en matière de répression, pour casser le burnou quand ils ne réussissaient pas à le faire suer assez, et pour casser l'ouvrier, c'était évidemment d'effrayer ceux qui se seraient bien un peu révoltés, mais qui, devant l'horreur, quand même n'osaient pas. Eh bien, on coupait les têtes et on les exposait devant les routes. Comme ça, ceux qui n'avaient pas encore rejoint le mouvement de protestation, ils risquaient pas de le rejoindre. Et quand André Violis a publié ses articles, elle est passée pour dingo, elle aussi d'ailleurs, pour pétroleuse, hystérique. Eh bien, elle avait décrit quelque chose qui est la clé de la répression. Vous épouvantez la population en portant des coups contre la fraction de la population qui se bat. Ou vous exploitez la terreur que suscitent des excités pour aboutir au même résultat. Voilà. Qui ne veut pas voir ça pourra toujours couiner si le pire arrive, en expliquant qu'il regrette que c'est dommage d'avoir été si peu vigilant. Je remplis ici ma double mission que je me suis toujours assignée, ma mission scientifique, c'est-à-dire ma mission d'établissement de la vérité historique, hein, c'est comme ça qu'on m'a appris à travailler, et ma mission civique. On nous l'a assez rappelé à propos de cette terrible affaire Paty, effrayante. Les professeurs d'histoire, géographie dans le secondaire, sont chargés d'assurer l'enseignement moral et civique. Quand j'établis ce qu'a été la vérité historique et que je dis aux gens la vérité historique, elle est quand même de nature à vous faire réfléchir sur la réalité d'aujourd'hui, j'accomplis la mission à laquelle j'ai consacré ma vie de travail d'enseignante.
C'est ici que se termine, pour aujourd'hui, les élucubrations de la vilaine pétroleuse stalino-complotiste Annie Lacroix-Risse, dont tu peux réécouter les délires conspirationnistes sur notre site, polemixetlavoixoff.com, et surtout, dormez tranquille, les gens qui nous gouvernent ne nous veulent que du bien. Salut.
Radio G.
101.5 FM.
Ah, you're a monster.
I can swallow a bottle of alcohol.